сюда. Prenez place. Les jeunes personnes qui sont debout au fond de la salle, s'il vous plaît, asseyez-vous.
Thanks, Chris.
Put it on the chair. Yes. Fucking hell.
How are you?
I'm there.
You are my bodyguard.
Nothing new there then.
Once again, ladies and gentlemen, please take your seats.
S'il vous plaît, messieurs, dames, veuillez vous asseoir. Comme ça, la réunion pourra commencer. Merci.
All right, we're ready to start our.
Bien, cette réunion va commencer. Service direct pour la nouvelle génération de GTLD. Bien, service de répertoire, pardon. Bien, bonjour, merci et à tous et bienvenue pour cette session de service de répertoire de données GTLD de nouvelle génération. Mon nom est Jean-François Baril. Je suis très heureux d'être le facilitateur de ce groupe de travail d'experts. Cette session aujourd'hui a deux objectifs. Le premier est de mettre la communauté d'ICANN au courant des progrès réalisés par notre groupe de travail. Et le deuxième est plus important encore, et c'est de recueillir votre contribution et votre point de vue sur des problèmes et critiques que nous discutons actuellement. Et par conséquent, nous avons élaboré le programme suivant pour cette session. D'abord, une introduction rapide de ce groupe de travail, ensuite un dialogue structuré avec la communauté et ensuite des conclusions et les propositions pour la prochaine étape qui nous attend. Donc, voyons d'abord les origines et l'objectif de ce groupe. Pourquoi sommes-nous ici en tant que groupe de travail? Si vous en souvenez sûrement, au mois d'octobre, Fadi Shehadeh nous a annoncé un plan ambitieux pour aborder les problèmes de ICANN et un plan très stratégique. Et malgré de nombreuses années de débats passionnés et encouragés par le travail et les rapports de l'équipe de révision du WHOIS, il a été reconnu que WHOIS n'était pas facile à modifier. Fadi a suggéré qu'on fasse une nouvelle approche et qui serait beaucoup plus efficace, surtout si l'on regarde dans le contexte des nouveaux GTLD et de l'Internet de demain. Le conseil d'ICANN a annoncé au mois de décembre la création de ce groupe de travail d'experts avec une direction stratégique qui était destinée à redéfinir les objectifs et la disposition des données d'enregistrement des GTLD. Si nous sommes bien articulés, si nous sommes transparents et bien sûr logiques, c'est notre objectif que le GNSO prenne notre contribution au sérieux. Et nous attendons aussi à ce que ce travail aide le GNSO pour créer une nouvelle politique mondiale pour la création des services de répertoire de GTLD. Maintenant, ce groupe de travail d'experts est une équipe incroyable. Comme vous voyez, nous sommes nombreux sur l'écran. Nous sommes 15 membres, y compris Steve Crocker et Chris Dispain, qui servent aussi comme liaison du conseil. Et en plus, nous avons 5 personnes des équipes d'ICANN. Comme vous le voyez, c'est un groupe donc qui est très diversifié, qui vient du secteur commercial et non commercial, des 5 différents continents, avec une expertise technique solide qui couvre les spectres de différents secteurs, IP, marques commerciales, protection de données, confidentialité, application de la loi, bureau d'enregistrement et registre, mais surtout, et je ne voudrais pas les mettre mal à l'aise, je dirais que ces gens viennent tous d'un niveau de leadership et de compétences très élevé. Notre manière de travailler. Nous sommes actuellement au travail depuis 6 semaines. Nous travaillons à travers le système de téléconférence et il y a eu déjà 3 réunions face à face qui ont eu lieu, une à Los Angeles, une à Londres et celle de Pékin, bien sûr. Nous avons réalisé une révision des problèmes qui demandaient donc les exigences concernant les services de répertoire de données d'enregistrement GTLD, mais nous avons aussi pensé qu'il était important de comprendre les cas d'utilisation. Et il faut toujours se souvenir de la question stratégique qui est quoi, qui, pourquoi, où, comment et quand. Et tout cela dans le meilleur intérêt de la communauté d'ICANN. Nous devons être très humbles et admettre que malgré le travail intense que nous avons réalisé et les efforts que nous avons faits, nous en sommes encore à la phase d'exploration, de révision et qui est pleine de défis. Mais en même temps, je suis convaincue que nous sommes en train de parvenir à une compréhension générale. Pékin représente une opportunité unique pour notre groupe de travail expert pour capturer le pouvoir mental qui existe dans cette communauté d'ICANN. Et nous aimerions maintenant vous inviter à participer à un dialogue ouvert, même si à ce stade, la contribution directe sera beaucoup plus utile pour nous que des questions. Comme je l'ai déjà dit, 6 membres de notre groupe ont accepté d'analyser les principaux problèmes. Et donc, je vais d'abord parler de la clause de non-responsabilité. Chaque présentateur va parler au nom du groupe de travail d'experts et non pas en leur propre nom. Je pense que c'est très important. Il faut le comprendre. Donc, pour chacun de ces 6 thèmes, nous avons 2 minutes d'introduction et 8 minutes pour recueillir votre contribution. En outre, nous avons préparé 10 minutes de plus pour que vous ayez la possibilité d'exprimer vos pensées et ce qui ne pouvait peut-être pas rentrer dans la structure que je viens de mentionner. Et si ce n'était pas suffisant, nous avons aussi préparé une adresse email pour que vous puissiez envoyer vos questions et vos commentaires. Chris a accepté, ici qui est assis en bas, hein, il a accepté le défi de modérer cette réunion. Je sais et qu'il aime bien faire cela, donc on va lui laisser ce travail. Donc Chris, vous avez la parole. Merci. Merci Jean-François. Bonjour à tous. D'abord, rapidement, avant de commencer, je vais vous dire un petit peu comment on va s'organiser. D'abord, la première personne qui va parler, c'est Rod. Et ce sera à vous ensuite de faire vos commentaires. Donc, vous aurez 10 minutes. Vous avez 2 micros aux endroits comme d'habitude, placés comme d'habitude. Rapprochez-vous du micro. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, nous vous demandons d'être bref pour que tout le monde ait la possibilité de prendre la parole et de respecter le sujet qui sera abordé par Rod dans le cadre du premier orateur. Et on continuera à avancer comme ça. Nous avons donc un timer de 10 minutes qui va marcher. Et donc, rappelez-vous qu'au bout de ces 10 minutes, on s'arrête et on change d'orateur. Voilà, maintenant, Rod, vous avez la parole. Merci, Chris. Bonjour à tous. Je suis contente d'être ici et comme Jean-François l'a dit tout à l'heure, une des façons pour nous d'aborder ce problème est de regarder et d'analyser ce problème de manière logistique, de l'analyser de tous ses angles, voir les personnes qui sont concernées, essayer de comprendre comment on est arrivé à ce point, etc. Et les gens doivent avoir accès aux données d'enregistrement et il faut comprendre que une perspective équilibrée est nécessaire et nous avons examiné pour cela différents cas, ce qui nous amène aux nécessités des utilisateurs du point de vue systémique, les perspectives pour les recommandations de politique et les questions de politique. Donc cela veut dire voir les différents angles, voir les utilisateurs, voir les différents secteurs dans lesquels certaines choses sont faites et classer les différents processus, les systèmes, etc., qui utilisent ce type d'informations et pourquoi est-ce qu'ils les utilisent. Donc ça, c'est une introduction sur ce que nous faisons. Nous avons ici un thème de discussion qui va recueillir des histoires, l'utilisation des données, c'est nécessaire, pourquoi c'est nécessaire, et tout cela selon votre perspective en tant qu'utilisateur. Pourquoi vous avez ces données, de quelles données vous avez besoin et pourquoi vous en avez besoin. Donc, 10 années sont passées, ça ne va pas être facile d'abandonner certaines choses. Donc, nous avons besoin de recueillir les données, de les stocker. Et est-ce qu'on en a encore besoin? On pourrait peut-être avancer. Pourquoi on n'annule pas tout? Steve, allez-y. Steve Matal, membre du groupe de propriété intellectuelle. Je voudrais remercier le groupe d'experts pour le travail et le temps qu'ils ont consacré à ce groupe. Je pense que ça va donner une contribution très importante qui va nous permettre de résoudre les problèmes. Je voulais seulement dire à propos du pourquoi les provisions de données et le stockage de données responsables. Je pense que vous avez déjà entendu parler entre vos membres et la façon dont cela est utilisé au niveau commercial pour respecter les droits de propriété et les appliquer, comment ces données sont utilisées pour les questions techniques aussi. Mais j'espère que vous savez aussi qu'un des aspects importants de l'accès à ces données est que on a une première utilisation dans ce contexte concernant WHOIS, c'est la transparence et la responsabilité. Les personnes qui utilisent l'Internet, les consommateurs, les familles, les parents ont vraiment besoin de savoir avec qui ils traitent en ligne. Et ça, c'est pour des transactions commerciales, des transactions économiques et pour d'autres choses aussi. Leurs enfants utilisent l'Internet. Donc, c'est très important et que ces consommateurs et les utilisateurs techniques, commerciaux, etc., le sachent. Et donc, une question qu'on peut se poser, c'est quelle est la catégorie de personnes qui ne devraient pas avoir accès à certaines informations concernant les enregistrements de données WHOIS. Bien. Merci, Sleeves. OK. Right. Et ensuite, Amadeo. Merci, Chris. Et merci pour le travail que vous réalisez. Et il faut recueillir ces données pour identifier qui est le candidat avec qui on va faire des affaires pour maintenir l'opération de GTLD aussi. Et on va avoir une section plus tard sur le stockage de données, mais je voudrais dire que il y a une série de rapports concernant les bases de données. Et ce que vous cherchez ici, qu'on doit analyser, c'est la façon dont on va former cela. Et ça donne lieu à certaines choses dont parlait Steve. Et à la fin, toutes les informations que l'on va avoir pourront ne pas être disponibles pour tout le monde et pourront être disponibles de façon fragmenté en fonction de la nature de la personne qui a besoin d'accéder à ces données. Et donc, on fera ça plus tard. Mais je pense que c'est quelque chose que l'on peut déjà organiser. La question de pourquoi, c'est clair. Parce que la véritable question est qu'est-ce qu'on va recueillir, qu'est-ce qu'on va collecter comme données. Et il me semble que cela doit dépendre de la question de la compétition. Amado, bien, est-ce que ça marche? Oui? Bien. Oui, ça marche. Voilà. Bien, ma question est la suivante. De mon point de vue, le recueil et le stockage ne sont pas les parties controversiales. On pourrait discuter si les faits au 21e siècle sont essentiels ou pas, même si ce n'est pas le cas, même si ce n'est pas controversial, même si ce n'est pas... On est d'accord sur un point. En tout cas, la qualité, la haute qualité d'enregistrement, les données d'enregistrement exactes, c'est important, doivent être recueillies chez le registrant et doivent être stockées, doivent être gardées. Je pense que la plupart d'entre nous pensent qu'elles devraient être accessibles pour les parties et intéressées. Donc, je pense qu'ici, le défi est-ce que l'on doit se mettre d'accord sur est-ce que l'on peut avoir accédé à... Est-ce que certaines parties vont pouvoir accéder? Est-ce que tout le monde doit pouvoir accéder? Est-ce qu'on va avoir une publication universelle? Moi, je recommande au groupe de ne pas passer trop de temps sur cette question de stockage et de collection de données, parce qu'il y a des parties qui doivent être améliorer, mais le centre du problème, ce n'est pas ça. Et il y a d'autres questions concernant le stockage et la collecte de données, comment on les réalise. On y reviendra. Je ne suis pas d'accord avec Amadeo. Je suis Cathy Kleiman. Je pense qu'il faudrait parler de collecte de données et de stockage. Pourquoi on les collecte? Pourquoi? Comment? Je reviens à ce qu'on faisait il y a quelques années. Je dis pourquoi est-ce qu'on a ce problème d'éléments de données, cet élément concernant les données, et qu'est-ce qu'il faut faire ici? Quand je regarde à ce qu'on faisait avant, c'était des données commerciales, IT, et c'était une question commercial, on avait les contacts techniques en cas de problème qui existait. Donc, je pense vraiment qu'il faut analyser la question des données, la collecte de données et comment et pourquoi on va collecter ces données. Tous ces problèmes, vous devez vous pencher dessus et y réfléchir. Et je suis contente de savoir que vous allez le faire. Bien, en ce qui concerne mon opinion, je m'inquiète pour la transparence et la responsabilité pour l'enregistrement de données parce que je pense que la façon dont on l'utilisait avant, ce n'était pas commercial. Il y avait question personnelle, politique. Je continue à proposer quelque chose qui soit non commercial. Beaucoup de gens veulent protéger les minorités, les dissidents, même les parents veulent protéger leurs enfants. Donc tout ça nous intéresse. Merci, Cathy. Vous voulez peut-être répondre à ce que Cathy a dit. D'abord, j'ai une question. Est-ce que vous allez faire une session sur la collecte de données en elle-même? Oui, nous avons. Oui, oui. Bien. Donc, une partie de la réponse à la question de la collecte concerne ce que vous allez nous faire comme rapport dans la question des dispositions et ça nous renvoie aux exigences concernant les besoins d'application dans le domaine de l'application de la loi et en ce qui concerne les collectes de données et les opérations de nouveaux GTLD, par exemple. Donc, concernant les coordonnées, il y a des exigences qui existent dans le système et donc, en faisant une formalité d'enregistrement, on va être obligé de collecter ces données. Donc, il faut faire fonctionner ces deux choses en même temps. Merci beaucoup, Rubensky. J'ai une suggestion pour le groupe de travail. Est-ce que vous pourriez considérer les différents niveaux d'approvisionnement de données d'enregistrement qui pourraient être utiles pour les utilisateurs et que cet approvisionnement puisse se faire à travers le système de DNS. Par exemple, un utilisateur qui ne veut pas faire du business avec des domaines qui sont cachés et qui sont sous des proxys, par procuration, disons, on pourrait donc le dire dans le DNS pour que l'utilisateur, en naviguant, puisse sélectionner et les personnes avec qui il veut faire des affaires. Cette personne travaille par procuration, celle-là non. Donc, il y a différentes utilisations de des données d'enregistrement qui pourraient être utilisées ou qui pourraient être utilisées en temps réel par les utilisateurs. Et donc, je pense que le RUIS doit être quelque chose que l'on peut regarder pendant qu'on est en train de naviguer sur Internet. C'est quelque chose qu'il faudrait considérer de cette façon. Merci, merci beaucoup. On passe au prochain maintenant. Et qui c'est qui est responsable de cette partie? Suzanne. Donc, nous, on regarde aussi les exigences de données. Nous regardons les noms de domaine des utilisateurs, si s'il a changé, si les personnes ont un droit concernant les informations déployées pour le nom de domaine. Et on peut aussi, certains doivent avoir un certain niveau de confidentialité, d'autres non. Et on est en train de considérer une utilisation commerciale des noms de domaine. Et je pense que tout le monde a le droit de savoir avec qui il fait du business sur Internet. Donc, c'est normal que l'on puisse accéder à cela et avoir un certain système de contrôle. On a regardé aussi les données d'identification. On a regardé beaucoup de cas, de disputes avec les cas où on a des éléments qui n'ont pas été correctement collectés, des discussions. Est-ce que ces éléments de données doivent être mieux collectés? Est-ce qu'on a besoin que le registrant passe par un système de données, de contacts, de coordonnées? Et on a regardé aussi les éléments de données qui ne sont pas déployés normalement. Est-ce qu'il faudrait qu'ils soient étendus? Parce que c'est controversial, mais il faut avoir une vision d'ensemble pour parvenir à un accord et pour proposer un nouveau design pour ce service de répertoire. On a regardé aussi ces éléments. Qu'est-ce qui peut être acquis? Qu'est-ce qui peut être déployé? Ça va être deux choses différentes. Il y aura deux réponses différentes. Donc, différents utilisateurs. On a les problèmes techniques. Quelqu'un a besoin d'être contacté rapidement. S'il s'agit d'un botnet, il s'agit de la protection d'un consommateur, application de la loi, IP. Et on essaye de considérer tous les éléments. Et donc, la question aujourd'hui pour vous, est-ce que les exigences de données doivent être différentes pour les non-Nobel, s'ils sont commerciaux ou non-commerciaux, et quand on parle de leur utilisation. Bien. Donc, j'ai mon propre nom de domaine et mettons ouvert, sans information. Et donc, Wendy, vous avez la parole. Bien, je viens du groupe de non-commercial, partie prenante non-commerciale. Je dirais que on peut faire une différence. En réalité, ce n'est pas une différence qu'ICANN devrait faire parce que c'est beaucoup trop compliqué de mettre une ligne permettant d'appliquer la fourniture d'informations. Il y a des exigences imposées pour les sites commerciaux qui peuvent être appliquées d'autres façons qui ne sont pas à travers le WIS pour dire aux individus, si on veut essayer de faire cette distinction, on doit parvenir à la question suivante. Est-ce que l'utilisateur va transformer son site en un site commercial? Est-ce qu'il va vendre le livre que j'ai écrit? Il va transformer son site en un site commercial? Il y a un lien dans lequel l'affilié va essayer de faire un achat ou de souscrire, et les utilisateurs dans le commerce. Il y a aussi des utilisations qui utilisent des systèmes à but non lucratif. Et donc, il faut essayer de faire ces différences. Et cela nous concerne dans une série de lignes qu'il faut tracer. Et cela cache ce qu'il faudrait légitimer comme l'expression, la liberté d'expression légitimée. Merci, merci beaucoup. C'est la première fois que j'entends parler de ce livre que vous avez écrit, Elliot. Merci, Chris Elliot Noss, avec deux choses. Je vais décrire trois choses depuis que nous avons commencé. Le consommateur, il s'agit de la protection du consommateur qui doit savoir avec qui il fait du business, des affaires. Donc, je considère ici qu'il y a trois choses importantes ici. La première, l'endroit dans lequel le lieu au niveau duquel le consommateur doit savoir avec qui il fait du business devrait être beaucoup plus et possible à accéder au niveau du navigateur. Si les personnes font des transactions en ligne, le site devrait avoir un certificat. Ce certificat devrait être déployé sur tous les systèmes de navigateurs utilisés aujourd'hui. Et de fait, dernièrement, nous avons eu la validation étendue du certificat SSR qui transforme le navigateur en vert. Si quelqu'un n'est pas capable de présenter cette information pour savoir avec qui on fait des transactions, je pense que c'est très simple et il faut qu'il y ait un niveau en dessous de cela, au niveau des données WHOIS, pour qui nous permet de savoir avec qui on fait des affaires. Le deuxième point important, on a besoin de reconnaître que l'élément transactionnel en ligne représente un petit pourcentage de l'Internet. Hein? Donc, un grand pourcentage d'informations on a assez de problèmes aujourd'hui pour savoir d'où viennent les informations. Donc, on parle de différents niveaux, un petit niveau de transaction, une petite couche au-dessus de ça qui serait les informations professionnelles. Toutes les personnes qui sont dans une de ces deux couches à un niveau d'encouragement compétitif qui lui permettrait, qui le mène à diffuser ces informations. La grande majorité des personnes, ce sont des personnes qui veulent partager les informations avec d'autres personnes, et la protection du consommateur ou l'encouragement pour que l'on ait accès à cette information pour protéger les utilisateurs de l'Internet va au-delà de Donc, je pense qu'il y a ici, on a tendance à prendre cette petite couche de personnes et l'étendre pour rendre le WHOIS quelque chose qu'il n'est pas. Je vais vous demander une question par oui ou par non. Il y a beaucoup de CC qui ont des différenciations entre personnel et des WHOIS personnels et des WHOIS commerciaux. Vous êtes d'accord? Oui.
Just a point of clarification.
Je voulais préciser ce qu'on a dit. On ne parle pas de WHOIS ici. Non, je m'excuse, Decreases Pain. Moi, je parlais des WHOIS existantes. Là, oui, on a fait d'autres mentions de ce point-là, mais on ne parle pas de WHOIS de Ray Polzak. Moi, j'ai un problème avec cette différenciation de parties prenantes commerciales et non commerciales. Et finalement, en fait, ce qu'on essaie de montrer ici est l'activité qui résulte des transactions, que ce soit dans la création d'un domaine, non-domaine de haut niveau, ou alors s'il s'agit d'une transaction qui résulte d'un non-domaine de haut niveau, qui reconnaisse les domaines de deuxième niveau. Et on ne parle pas d'enregistrement de site web. Donc il faut que ce soit clair. L'information que l'on réunit se réunit par rapport aux transactions, certainement d'un certain point de vue, l'opérateur du nom de domaine, si vous voulez, va rapporter qui est l'utilisateur, et lorsqu'il rapportera ces informations, vous verrez que l'enregistrement pourrait correspondre à un site web ou alors à quelque chose d'autre qui soit complètement différent. Donc il faut qu'on se maintienne dans ce processus de transaction, et les données exigées devraient nous rapporter à la première question, en fait, ce qui est porte pas sur les données que vous rassemblez, mais en fait, qu'est-ce que vous devez rassembler? C'est ce que vous devriez expliquer. Merci, Ray, Decreases Pain. Je vais continuer parce qu'on n'a pas assez de temps. Cathy, je te donnerai du temps à la fin. On va continuer maintenant. Merci. En fait, je voulais que l'on parle d'Eton Blumenthal, de l'aspect économique et non économique, mais je pense que Wendy l'a déjà expliqué. En fait, je voulais répondre à ce que Elliot a suggéré. Et c'est que moi, je faisais partie des agences du respect de la loi. Et on invitait les consommateurs à vérifier qui était la personne à travers les enregistrements WHOIS. Et en fait, maintenant, les chiffres sont de plus en plus grands. Et en général, lorsqu'on fait des transactions, on vérifie pas les informations pour le site web à chaque fois. Parce qu'on n'a pas une adresse ou un numéro de téléphone ou une façon de contacter la personne. Savez-vous, il faut établir un dialogue pour que les informations soient soumises. on ne sait pas où soumettre les informations, où on soumet les informations. Donc, on pourrait se demander l'utilisation, combien ce serait utile d'avoir ces informations à travers l'information de domaine. Mais en fait, les consommateurs s'en servent. C'est le respect de la loi leur encourage à le faire. Cathy Kleinman, encore une fois, je veux dire non. Cette question est reprise à chaque fois depuis 10 ans et il semble que c'est facile de différencier les parties prenantes commerciales des non commerciales. Mais alors, commercial, c'est quoi? Les organisations à but non lucratif aussi rassemblent de l'argent et réunissent des fonds pour faire leurs activités. Mais est-ce qu'ils sont commerciaux? En fait, non, c'est à but non lucratif. Je suis Cathy Kleinman.com. Je passe de commercial à non commercial. C'est ça que je voulais savoir, quelle est la différence. Rapidement, je voulais répondre aux commentaires de Don, d'Elonos. En fait, je pense que c'est un bon mécanisme. Si je vais donner mon argent à quelqu'un et si cette personne n'a pas les informations dont j'ai besoin pour pouvoir les contacter, je ne vais pas lui donner mon argent. C'est ça. Bien, merci à l'aide de Chris Despain. On va passer à la diapo suivante. Et c'est les exigences de confidentialité. C'est Stéphanie qui va nous en parler. Merci, dit Stéphanie. Merci. Notre groupe se centre sur cette question de confidentialité qui a été centrale depuis quelque temps. Mais on sait que lorsqu'il s'agit d'exigences de confidentialité et de protection de données, on sait qu'il y a deux lois différentes, deux juridictions différentes dans la société mondiale. Donc les exigences de confidentialité pourraient être différentes, mais on se centre sur le propos, en fait, le but. Donc il est important que l'on comprenne le but de réunir les données, l'utilisation des données et la divulgation de données aussi, et l'impact de tout cela sur les données d'enregistrement que l'on rassemble. Il est clair qu'il s'agit des données intéressantes et importantes et utiles pour de différentes raisons. On essaie de trouver quelles sont les données pertinentes, les données appropriées, et on essaie de le restreindre au but. Donc, si on essaie de comprendre quels sont les buts, on est sur la bonne voie. Il est clé de le comprendre. On a déjà des exceptions de loi selon la location, la situation des bureaux d'enregistrement, et on essaie de voir comment ça impacte la communauté. Si vous voyez la petite caisse bleu en haut, c'est une question qui est déjà présente pour nous et on se demande si le moment est venu d'ICANN pour ICANN de développer une politique de confidentialité et si ça aurait l'air, comment ce serait de faire cette politique, comment cette politique serait dans un univers mondial de lois différentes. Donc on va passer à la discussion de questions. La première est si on doit servir les enregistrements anonymes, s'il est possible de sauvegarder les abus au niveau minimum et de protéger la confidentialité des enregistrants. Lorsqu'on parle des enregistrements anonymes, en fait, du point de vue technologique, il y a toute la question du service d'enregistrement de proxy. Et puis la deuxième question est quelles sont les possibles sauvegardes pour minimiser l'abus et pour protéger la confidentialité des enregistrants. Et on a différents types d'abus. On l'a vu à travers vos commentaires. Il y a de différentes interprétations. Merci Stéphanie. C'était Stéphanie Perrin qui parlait. Donc, les enregistrements anonymes et la confidentialité des registrants, dit Chris Despain. Bertrand, t'es la première personne pour parler. Oui, je suis Bertrand de la Chapelle, membre du conseil de direction. Lors des discussions que j'ai suivies par rapport à ces deux sujets, on fait une distinction entre ce qui est obligatoire pour de motifs ou de raisons juridiques, dont les informations qu'il faut protéger, particulièrement pour les individus, et ça dépendra bien sûr des différentes juridictions. Et la deuxième question, qui est la capacité optionnel de protéger la visibilité de quelqu'un derrière un serveur proxy. C'est ça ce que je comprends, c'est les deux facteurs ou aspects que je comprends. Et en fait, là où les exigences de confidentialité sont fortes, par exemple en Europe, où l'on a des pratiques de loi entre les CCTLD, à partir desquelles le CLDZ dans les différents modes peut être construit. Et puis, dans ce deuxième respect, la question ne porte pas tellement sur la capacité de sauvegarder les données à travers l'enregistrement proxy, mais les conditions dans lesquelles elles sont sauvegardées et par qui. Merci Bertrand, dit Christopher. On va voir ce qu'on a ici. Merci, c'est Karen McCarthy qui parle. On a un commentaire, une suggestion. Et on l'a dit ici que l'un des problèmes avec les informations d'enregistrement, c'est que l'on ne sait pas à quel point ce sont des informations précises, particulièrement parce qu'on a autant de noms de domaines. Les utilisateurs Internet ont un outil pour rapporter les informations et ils n'ont pas un mécanisme simple dans un navigateur pour pouvoir nous faire savoir lorsqu'il y a des problèmes. Rebens a suggéré que Whois pourrait être montré dans le navigateur et Elliot a identifié les différentes sortes de propriétaires de sites web. Il serait peut-être possible de faire ce que Nominet fait dans le Royaume-Uni pour que les gens sélectionnent si un site sera utilisé pour des propos personnels ou commerciaux. Pour un site commercial, il pourrait montrer les informations du registrant dans le navigateur et un site personnel pourrait avoir aucun détail. Donc, en fait, si Internet voit que quelque chose n'est pas censé, on pourrait le rapporter aux personnes indiquées. Merci, Carol et Chris Despain. Amadeo Abril. Je suis anonyme, hein. Je ne vais pas donner mon nom, dit Amadeo. J'ai quelques questions. Stéphanie, tu as dit que tu considères les modalités, mais est-ce que vous avez cherché à avoir des statistiques sur les requêtes d'accès ou de communication avec ces bureaux d'enregistrement qui sauvegardent la confidentialité des individus, par exemple, qu'il s'agit de ccctld.ca.fr, quoi que ce soit? Pour moi, c'est intéressant parce que si on essaie de trouver la précision, on passe de l'un à l'autre entre la liberté d'expression ou la protection de confidentialité ou le respect de la loi. On ne sait pas ce qui se passe lorsqu'on passe aux amateurs, en fait. Quel est l'impact réel de cela? Dans l'abstract, tout est difficile. On n'a pas des paramètres clairs, mais tout semble simple, mais c'est difficile. Par rapport aux enregistrements anonymes, pourquoi voulions-nous avoir des enregistrements anonymes? Ce n'est pas simple d'avoir des enregistrements réels, avec des données réelles qui ne soient pas divulguées pour de propos légitimes, mais que tout le monde ait des données anonymes publiées et qui soient imprécises. Pour moi, Whois public doit être accessible pour tout le monde et toutes les informations doivent être correctes ou appartenir à une troisième partie sur tel qu'un proxy. Donc peut-être que le fait d'agir avec de la responsabilité ou pas, c'est la pire des situations. Merci Amadeo pour répondre à ta question. On n'a pas obtenu les données des personnes qui font la distinction entre les parties prenantes commerciales et non commerciales. Soyez bref, s'il vous plaît. Donc, on a maintenant Ray Polzak qui parle. Oui, la question de la confidentialité, en fait, n'a rien à voir avec le rassemblement des informations. Ça porte sur le fournissement et sur le stockage. Lorsque l'on fait l'enregistrement, on voit les conditions de ce qu'on doit rapporter et ce qu'on ne doit pas faire. À travers les conditions et le fournissement et la confidentialité, on doit s'occuper des enregistrements anonymes, etc. Et donc le stockage de toutes ces données est en fait ce qui peut être à l'intérieur des secteurs tant de stockage comme de fournissement. Merci, je suis Wendy Seltzer et je veux féliciter cet effort de examiner les questions de confidentialité et de liberté d'expression anonyme qui n'est pas toujours appréciée. Donc l'expression anonyme aux États-Unis est protégée par la première amendement et la liberté d'expression par l'association de droit d'association libre et il y a des protections pour le droit de parler. Et puisqu'on se sert des noms de domaine, il ne faut pas que l'on ait son propre nom de domaine pour protéger la liberté d'expression, n'est-ce pas? On peut parler de façon anonyme. Non, oui, il faut avoir un nom de domaine pour renvoyer les personnes envers votre site sans révéler sans divulguer votre nom libre, indépendamment des pressions que l'on reçoit. Si on veut protéger la personne sans de pression externe, si l'on veut envoyer la personne envers un site, la meilleure façon de les aider à trouver ce que vous dites est d'avoir un nom de domaine anonyme. Donc les gens se servent de ces noms de domaine, et pourquoi devraient-ils être relégués envers une deuxième solution qui ne serait pas la meilleure? Il faut qu'on soit disponible pour maintenir ces discussions sur l'utilisation des noms de domaine des personnes anonymes. Comme je l'ai déjà dit, lors d'autres forums, on pourrait avoir une procédure rapide ou d'autres mécanismes d'escroc pour résoudre la situation d'abus des informations. Wendy, je ne veux pas t'interrompre, mais par rapport à ce que tu dis sur les personnes anonymes, est-ce que tu veux avoir de l'anonymité complète ou alors simplement la protection de l'identité? Je pense, dit Wendy, que si la personne... Non. Dans un monde idéal, qu'est-ce que tu voudrais avoir? L'anonymité au complet, dit Wendy. Ok, bien, on essaie de comprendre ce que tu voudrais. Bien, pardon, Wendy, mais il faut qu'on passe à la prochaine personne, dit Chris Despain. Bonjour, je suis Sumi Akitani d'un registre d'adresse IP et on gère un WIS, on veut partager notre pratique avec vous. On a une loi de privacité au Japon qui nous exige de protéger les informations confidentielles des utilisateurs finaux, mais on sentait aussi que la précision des registrants était très importante. Donc, ce qu'on a fait était de s'occuper des deux. Donc, on a demandé aux registrants de nous donner toutes les informations, même leur adresse postale, le numéro de téléphone de chez eux et tout, et on ne divulgue pas les informations. Donc, on ne publie pas ces informations pour les utilisateurs non commerciaux, mais lorsqu'on reçoit une exigence ou une demande des agences de respect de la loi qui nous exige de divulguer ces informations parce que c'est nécessaire pour combattre le hameçonnage ou le spam ou quoi que ce soit, on le divulgue. Merci. Oui, merci, c'est un commentaire très utile, dit Chris Swain. On a maintenant une autre diapo qui va être abordée par Fabrizio. Merci, dit Fabrizio Baira. En fait, on s'occupe des exigences de précision et des exigences pour la précision de données. Comment ces exigences pourraient faire que les données soient plus fiables ou qu'elles aient une meilleure qualité. Et donc, je suis contente de voir qu'Amadeo a déjà participé 3 fois dans cette session. Et vous voyez que la précision est un sujet continu qui revient au sujet préalable qu'on va continuer de discuter. Et pour vous donner un exemple, sur la base de ce qu'on a déjà dit, qui était la confidentialité, on a discuté comment les mécanismes pour protéger les utilisateurs privés pourraient améliorer les données que l'on reçoit et la qualité des données. Donc, je voulais partager ce qu'on était en train de discuter. Ce sujet, bien sûr, revient toujours à la façon de traiter les données imprécises que les personnes nous donnent. Donc, on a maintenu plein de discussions liées à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, si on devrait modifier les processus, si on peut les modifier, si les pratiques sont formées sur la base de ce que l'on espérait avoir pour les processus d'aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on voudrait demander est si les solutions pour les données imprécises devraient être différentes, que ce soit des données qui ont le vice de la fraude ou des données criminelles ou avec une conduite qui n'est pas appropriée. Bien, merci Fabrice, dit Chris Despain. En fait, pour certaines CC, ce n'est pas censé de le discuter, mais on va devoir les sanctionner. Et les registres des numéros, par exemple Ray, vont prendre le nom, vont vous enlever le nom et insister à ce que vous les corrigez. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va devoir mettre des sanctions?
Merci, je suis Mathieu Bay. Je suis le PDG de AFNIC.
Et on a mentionné un nombre de politiques de CC. Et je pense qu'on a beaucoup travaillé pour assurer ou garantir la protection de la confidentialité et la précision des données WIS dans ces dernières années. Et il y a plein de politiques qui ont été inspirées sur notre travail. Donc, ce qu'on fait lorsqu'on a des données imprécises est très simple. Ça vient du droit français. Et en fait, les données imprécises sont une raison pour laquelle on enlève un site de l'Internet. Donc, on le fait de façon régulière dans le point .fr. Et la loi le dit très clairement, on doit enlever le site Internet jusqu'à ce que le registrant ait corrigé les données. Indépendamment de la situation, que ce soit de la fraude ou un délit ou une conduite inappropriée, on ne fait pas de discrimination entre les options. Et par conséquent, il faut que l'on permette une quantité de temps suffisante pour que l'utilisateur corrige les données avant qu'on enlève son site d'Internet. Merci, Mathieu. On va donner une minute à chaque personne, dit Chris Payne. Donc, Wendy Seltzer. 50 secondes, Wendy. Hein. Je pense qu'on pourra répondre à cette question beaucoup mieux, dit Wendy Seltzer, dès qu'on aura des mécanismes pour protéger la confidentialité, qui ne soit pas seulement le fournissement de données imprécises. Donc, je ne suis pas d'accord par rapport à cette réponse. Si on suppose que vous avez une option de ne pas divulguer les informations, est-ce que on vous exigerait de fournir les données au bureau d'enregistrement? Est-ce que vous avez une pratique, un mécanisme pour l'assurer? Dit Wendy Seltzer, on devrait ne pas devoir fournir d'informations. C'est ce que j'ai dit avant. Hein. Mais il me semble que c'est une meilleure question, qu'on pourra répondre mieux lorsqu'on aura davantage d'informations par rapport aux options de confidentialité. Elliot Ness, Elliot qui prend la parole. Il y a un Elliot Ness qui prend la parole. On a entendu parler certains CC par rapport à des politiques qui portent sur la précision. Ça fait partie de ma minute, Chris. Non, dit Chris, mais si vous équilibrez la situation pour que tout le monde soit au même niveau, donc vous voudrez que ICANN s'impose, dit Elliot Ness. En fait, Elliot, excuse-moi, mais quelles sont les 5 CCTLD les plus grandes? Les 5 CCTLD les plus grands en ce moment? Elliot Ness dit, il me semble que c'est simple, ça va être UCA. UCA a des différences ici. Oui, mais ils ont des différences, mais ce n'est pas les mêmes restrictions que d'autres utilisateurs privés. Et en fait, c'est impossible de parler d'exigences pour la précision ou pour voir qui a accès aux données et pourquoi ils ont accès à ces données. En fait, c'est la façon de faire abus des données WIS aujourd'hui parce que les personnes croient qu'ils doivent pouvoir accéder à ces données alors qu'il devrait y avoir davantage d'anonymité. Donc, on ne peut pas les traiter séparément. Je pense que ce n'est pas facile à répondre indépendamment l'un de l'autre. Bien, Bertrand, tu seras la dernière personne, il faudra que tu sois bref, hein, dit Chris Despain. Bien, je voulais parler des pénalités différentielles pour s'en servir. Je pense qu'on devrait avoir une autre définition de la situation. Les pays s'éloignent trop de la définition des utilisateurs, de la fraude, des utilisations, et l'Internet ne peut pas perdre cet élément. Merci, Dan. Ray Pilzak. Le mot « solution » est utile ici. Il y a deux aspects à traiter. On a la question de l'information et c'est
Comment est-ce que le bureau d'enregistrement sait qui est le registrant? À quel point savent-ils de qui il s'agit? Les personnes passent beaucoup de temps à essayer de voir si la personne qui veut s'enregistrer est un spammeur ou pas, s'il s'agit de hameçonnage ou pas. Donc, il faut que la phase de rassemblement d'informations soit améliorée pour le garantir. Et puis, cela se passe dû à un nombre de raisons. Et il faudrait qu'on puisse mettre à jour les données de façon périodique pour que l'on ait des activités de réenregistrement pour ne pas avoir de données imprécises. Donc, prenez cette idée, demandez à vos avocats de déterminer comment le faire. Bien, Amadeo, Abril, par rapport à l'anonymité complète, ça présente des problèmes du point de vue des bureaux d'enregistrement, des registrants, etc. Si moi je dis que je suis Mickey Mouse, ils vont l'accepter, mais ils ne peuvent pas signer un contrat avec moi si je ne donne pas de numéro de contact, de nom, d'adresse pour renouveler le contrat lorsqu'il sera à sa échéance. Et puis, la qualité des données et ces personnes qui ne savent pas ce que vous lisez, ce n'est pas précis parce qu'ils n'ont pas des informations physiques. On a besoin d'une adresse physique. Si l'email fonctionne, l'adresse et le numéro de téléphone fonctionnent, les données sont assez pour avoir des communications utiles, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi on a mis la fiabilité sur la diapo de Chris Despain. Ok, Steve Metalitz dit, je voudrais répondre non à cette question. Si vous parlez des solutions dans le monde des registres et des bureaux d'enregistrement, et les gens ont mentionné les lois nationales, et certains pays ont eu des sanctions plus grandes que d'autres pour discuter l'abus des données, c'est confidentiel par une couche entière de fournisseurs de services de données à un nombre de parties prenantes. Et donc, Chris, ça te surprendra peut-être pas d'apprendre que les parties prenantes qui ne respectent pas les termes de l'accord de données WIS n'ont pas le niveau d'accès qu'ils veulent. Ils se sont déjà plaints à ICANN là-dessus. Et donc, il y a des SLA par rapport à leur accès. Et il me semble que oui, l'accès en couche est une très bonne idée. Madame Abril, oui, je dirais oui par rapport au principe. Et je pense que le problème ici sera par rapport à la mise en place. Pour les nouveaux CCTLD, ce sera plus simple parce qu'on a un contact avec votre fournisseur local. Mais la question ici portera sur l'Interpol et d'autres agences qui devraient être préparées pour ce contact. Ça ne pourrait pas être par des bureaux d'enregistrement individuels et locaux parce qu'ils ont fait plein d'erreurs là-dessus. Et c'est pareil pour les agences de respect de la loi, pour des compagnies, etc. Donc, on aurait besoin d'avoir l'aide de l'industrie pour pouvoir identifier ces besoins. Merci à Amadeo et Chris Despain. On a perdu ici la transcription, mais en tout cas, Steve. Oui, je suis Steve Metalitz. Si j'avais une question en un mot, ce serait non, pour les mêmes raisons que Bill a mentionnées. Et ça porte sur ma préoccupation initiale, et c'est que si on va avoir un accès différencié, on devrait assurer que tout le monde ait un intérêt légitime à ça, tous les internautes. Ne va avoir un intérêt légitime. Donc, on ne veut pas chercher une solution du point de vue de respect de la loi. Ça fonctionne pour les marques déposées, mais aussi pour d'autres. Et ça ne fonctionne pas pour le public dans l'ensemble. Oui, dit Chris Despain, il me semble que c'est une supposition de penser que l'accès en couche commence à un niveau qui est accessible pour tout le monde. C'est une autre question que tu poses ici, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, je te comprends. Hein. Steve Metalitz dit oui, le statu quo, et qu'on a accès anonyme à ces informations. Je ne suis pas sûre si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a des bénéfices sur ce problème. sur ce système. Oui, Bertrand Lachapelle, en fait, il me semble que parler d'accès en couche veut dire qu'il y a une évolutivité, une hiérarchie et des niveaux plus hauts de hiérarchie et des niveaux plus bas. Je préférais de parler de modalités d'accès différenciées au lieu de dire accès en couche. Parce que ce n'est pas une hiérarchie, mais ça peut être à travers les différentes couches. Ça pourrait être intéressant. On pourrait faire des études académiques que l'on ferait de ce point de vue, si possible. Mais si on avait la plupart des études académiques, ce serait utile pour avoir accès au respect de la loi, pour avoir les informations dans une seule couche, et même pour la capacité de contrôler ce que l'on publie. Et ce serait possible de le faire. Et j'imagine déjà les systèmes où la requête est enregistrée pour qu'elle soit permise à d'autres personnes par la suite. Donc, ce n'est pas simplement qu'on devrait différencier l'accès selon le but de la requête, mais aussi elle devrait être permise selon l'accès qui correspond au respect de la loi ou un accès libre et de différents niveaux d'accès. Mais l'enregistrement et la capacité de mettre à jour à chaque fois cet accès et les permis pourraient être bons pour éviter ou pour prévenir les abus. On a une minute de plus, donc si vous voulez dire quelque chose d'autre par rapport à l'accès en couche, dit Chris Despain, quelqu'un ici dans le panel? Je vais vous donner l'occasion d'en parler. Oui, Michael Nellon dit oui, je voulais dire un petit mot là-dessus. Ce qu'on essaie de faire, en fait, et la raison pour laquelle on fait cet exercice aujourd'hui, est parce qu'on essaie de revenir sur la question de données techniques dont on a besoin. Et donc, je vais reprendre ce que Steve a dit, et c'est le fait qu'il est impossible de résoudre les noms de domaine sur Internet sans donner accès aux données pour le public, à moins qu'on ne crée de nouveaux protocoles. Et je pense qu'on pourra le contrôler et vous pourrez le monétiser sans doute, mais c'est difficile. Stéphanie Perrin voulait aussi parler, dit Chris Despain. Oui, dit Stéphanie, je voulais répondre aux commentaires de la vision coordonnée. Je suis d'accord. Je ne veux pas que l'on perde les capacités de recherche et d'analyse statistique. Mais le problème, bien sûr, est que cet équilibre avec le poids de la recherche pour la communauté, que s'ils doivent évaluer chaque requête, ça pourrait être très lourd comme processus. Et c'est pour cela que c'est ouvert à l'heure actuelle. Il faut trouver la façon de le calibrer. Et plus de complexité serait mieux que de le faire plus simple. C'est ironique. Hein? Bien, merci, de Christy Spain. Maintenant, quelqu'un d'autre qui parle? Oui, l'identification devrait nous préoccuper. Et ce n'est pas simplement la confidentialité des personnes qui enregistrent des noms de domaine, mais aussi la confidentialité des personnes qui demandent ces données. Anda, il s'agit d'une préoccupation beaucoup plus sérieuse parce qu'on ne sait pas qui c'est qui stocke ces données. Et je pense que le groupe de travail devrait considérer cet aspect si vous allez suggérer d'autres formes d'accès. Et Cathy, finalement, oui, c'est une très bonne conversation, je voulais dire. On devrait l'avoir maintenue il y a des années. Et donc, l'accès en couche et l'accès aux données et la confidentialité des personnes qui essaient d'accéder à ces données. Il me semble que c'est une très bonne discussion. Merci. Christy Spain, oui, je vais passer la parole à Stéphanie. Stéphanie Perrin, oui, je n'ai pas parlé en détail de la discussion des politiques de confidentialité. Mais il faut que vous sachiez tous que l'on évalue toutes les données et qu'il y aura de différentes règles pour tous les secteurs. Donc, c'est un aspect complexe. Ce n'est pas simplement qu'on doit évaluer ce qui se passe dans l'aspect du WIS. Bien. Oui. Landry qui prend la parole. Landry Ajayi. En fait, il me semble qu'il faut que l'on voit si c'est raisonnable du point de vue des coûts de permettre l'accéder aux données des registrants. Est-ce qu'il devrait y avoir un mécanisme où les utilisateurs paient un frais pour pouvoir accéder à un certain niveau de données? Oui, on devrait le discuter, mais pas en ce moment, dit Chris Despain. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des commentaires là-dessus. C'est un bon commentaire. Merci. Donc, on a maintenant la diapo sur le stockage, les exigences de performance. On parle de ce qui se passe du point de vue du stockage de données. On a un modèle utilisé en ce moment et un deuxième modèle qui se centre sur les bases de données, et c'est où les données sont stockées qui nous préoccupent. Et en fait, on a tellement de registres qui sont créés que la question porte en fait sur le défi que ça pourrait représenter. Mais on a différentes sortes de modèles distribués, et indépendamment du modèle que l'on adopte, il y a des paramètres qui vont devoir être mis en place pour pouvoir évaluer la performance. Peut-être qu'il s'agisse de budget ou alors des audits périodiques. Il devrait aussi avoir des mécanismes de contrôle pour les bases de données. Par exemple, on peut accéder aux données sans requérir des informations de crédentiels, ou on pourrait le faire, ou alors un accès en couche pour traiter ces modalités techniques différenciées qu'on a mentionnées tout à l'heure. Et on peut avoir des fournisseurs de dépôts différenciés. Mais la question est, qui va gérer cette base de données et quel serait le coût de le faire? Et est-ce qu'on va demander aux personnes de payer un frais pour pouvoir accéder, comme on a dit tout à l'heure? Donc, le service est important, c'est pour les utilisateurs, c'est pour ça qu'on veut avoir vos commentaires. Donc la question serait, quels sont les coûts et les bénéfices d'une base de données distribuée au lieu d'avoir une base de données centrale? Chris Metallit, Chris Despain, qui dit qu'il y ait d'autres bureaux d'enregistrement dans la salle à part Elliot. Je ne veux pas te vexer, Elliot, hein, mais je veux entendre quelqu'un d'autre parler. Si on a des registres... Ah, voilà. On va commencer avec Ray Polzak, qui dit « J'assume que vous le dites en connexion à un seul GTLA où chacun aurait une base de données centralisée ou alors distribuée. » Non, on pourrait avoir une base de données centralisée pour tous les GTLA d'Espain. OK, dit Ray Polzak. Donc, il y a une organisation en Genève, dit Chris Despain, qui a toutes ces informations. Non, je m'oppose à ce modèle, dit Ray Polzak. Et pour répondre à votre question, je propose qu'on le laisse aux critères des GTLD. Ce serait à eux de le décider, mais ils doivent suivre des processus pour le faire. Et donc, ce qu'il faut faire, en tout cas ici, est de traiter, de contrôler les données selon les facteurs que l'on a mentionnés tout à l'heure. Mais donc, il faut voir ce qui est plus important. Donc, si on avait une politique ou des règles ou des standards pour que les GTLA puissent choisir s'ils veulent avoir des bases de données distribuées ou centralisées, ce serait une meilleure solution. Donc, je veux préciser un peu, dit Chris Despain, dans ces contrats de nouveaux GTLD, chaque GTLD a un WIS épais. Ça veut dire que l'on opère ce WIS épais depuis une location. On l'a déjà mis en place pour les nouveaux GTLD. Donc, la question, en fait, porte sur la base de données centralisée dans tout l'espace. Et je sais que vous avez dit non. Oui, dit Ray Polzak, j'ai dit non à la possibilité d'avoir 30 000 GTLA dans une base de données centralisée. Et c'est évoluable comme modèle, mais je pense qu'il faudrait fournir des règles pour que les GTLA puissent choisir ce qu'ils veulent avoir. Et puis, on doit traiter des modèles différents. Bertrand Lachapelle. Je suis pas sûre si on devrait avoir l'une option ou l'autre. En fait, le rassemblement d'informations est centralisé. Donc, c'est un décentralisé, en fait. Donc, on devrait avoir suffisamment de standardisation, de protocoles clairs pour donner aux gens la possibilité de réunir ces informations et qu'il y ait plusieurs acteurs qui réunissent ces informations de temps en temps pour les fournir aux utilisateurs. Donc le choix que l'on devrait faire ici, comme on a présenté dans la question, est qu'il y a un seul aspect qui devient le point de référence unique et une base qui pourrait être un point de référence à partir de différents modes d'agrégation. Donc le serveur Racine est un modèle qui fonctionne à partir d'une seule base de données distribuée. Donc ce n'est pas un choix entre l'un et l'autre. Oui, dit Chris Despain, c'est tout à fait correct. On a déjà discuté. Chuck, merci Chris. Je suis Chuck Gomez de VeriSign. Je vais vous donner certaines informations historiques. En fait, d'abord, les réseaux régionaux, je pense que c'était VeriSign, mais c'était des réseaux qui étaient prêts à offrir deux concepts. Le WIS centralisé, qui fonctionnait pour tous les GTLD, pas seulement les TLD que l'on opérait, mais aussi pour inclure les CC. Et on a découvert rapidement que les CC ne coopéraient pas là-dessus. Et on a modifié notre façon d'agir. J'allais répéter, en fait, et expliquer la même réponse par rapport au fait que tous les WIS sont rassemblés à partir de crowdsources. Donc, je voulais parler un peu de la centralisation et d'une solution centralisée qui ne serait pas évoluable. On a une base de données très grande pour certains noms qui viennent d'une centaine de bureaux d'enregistrement. Je ne suis pas une personne des sphères techniques, donc je ne pourrais pas vous répondre, mais je pense que ce ne sera pas évoluable comme modèle. RubensQ, je voudrais reprendre ce que Bertrand a dit. Il est possible d'avoir des bases de données distribuées avec des authentifications centralisées pour des propos d'enregistrement. Donc les bases de données pourraient être n'importe où et reconnaître des certificats centralisés pour les autorités de respect de la loi, les autorités de confidentialité, etc. Merci, dit Chris Despain. C'était un très bon commentaire. Je ne sais plus qui c'est qui l'avait dit. Je pense que c'était Amadeus. Il a mentionné la difficulté pour reconnaître les informations et le respect de la loi dans tous les pays. En fait, il faut qu'on le fasse centralement pour le respect de la loi et ce n'est pas un bureau d'enregistrement individuel de le faire. Merci. Steve Metallis qui prend la parole.
Ce n'est pas une question. Ce que je voulais ajouter, c'est que l'équipe de révision du WIS, qui n'a pas été mentionnée ce matin d'ailleurs, on en a parlé. Et une de leurs recommandations était que ICANN devait établir un système centralisé pour toutes les données d'enregistrement des GTLD et toutes ces recommandations ont été approuvées par le conseil de l'ICANN. Donc on est dans un processus de quelque part ici dans ce spectre. Amadeo, je vais essayer d'être très bref. D'abord, je voudrais que Et ici, on a un système de registre, mais on peut se demander, un des problèmes qu'on a pour les registres et pour les plaintes des bureaux d'enregistrement, on a un seul endroit pour tout le monde avec les problèmes et envers, par exemple, au niveau de l'Amérique. Une autre question, oui, à ce que Robin a dit. Et ce dont on a besoin, c'est de centraliser l'accréditation des demandeurs et tout cela à travers les registres. Ce serait une demande valide. Ça, c'est une demande valide. Ça nous permettrait de travailler différemment dans un contexte différent. Je suis Andrew Sullivan. Deux points ici. Le premier, l'analogie avec la zone racine. Est un peu difficile parce que la zone racine est petite et ici on parle des données d'enregistrement, donc c'est une mauvaise idée. Ensuite, et peut-être plus important, on a déjà une certaine expérience et à savoir si on a plus d'une personne qui a les mêmes données parce qu'on a le WIS épais, le WIS fin et donc si on a plusieurs bureaux d'enregistrement qui ont les mêmes données, donc on a du mal à communiquer ces données. Donc, il y a une autre, on pourrait ajouter une autre couche, mais c'est une mauvaise idée parce que ça va distribuer le système. Et on va avoir des bases de données distribuées. Bien, merci. Si vous voulez, pour notre prochaine session, vous pouvez faire des commentaires sur tous ces aspects pour savoir si on peut faire payer cela. Vous pouvez parler de tout ce qu'on peut faire avec les services d'enregistrement de nouvelle génération, si vous voulez. Donc, si vous avez des choses à dire, venez au micro, Bertrand Lachapelle. Juste un point. Et apparemment, ce type de questions qu'on aborde dans le cas de WIS en ce qui concerne l'application de la loi est semblable à d'autres types de problèmes qui sont affrontés, par exemple, dans la relation entre l'application de la loi et les grandes plateformes telles que Facebook ou autres, parce qu'ils ont une série de données vues sur les activités de leurs utilisateurs. Et donc, le problème que je constate au niveau de la juridiction Internet actuellement, c'est la procédure d'interface entre les différents opérateurs, entre l'application de la loi, entre les compagnies, les opérateurs DNS, les ASP, les plateformes dans l'espace Internet, mais aussi les groupes de société civile pour essayer d'atteindre un objectif qui serait une série de procédures interopérables qui garantiraient un processus dû et une interaction et, le plus directe possible et des contrôles en cours de route. Merci Bertrand. Le dernier. Tout le reste, tout ce que vous voudriez ajouter. Nous avons ici la dernière drapeau. Bien. La dernière drapeau. Bien, nous allons maintenant parler au fait de faire payer pour l'accès. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Bien. Alors oui, il n'y a pas de problème, on peut faire payer. Non. OK, on peut faire payer. OK, voilà, Elliot. Oui, Elliot. Je pense que ce que Bertrand a dit, je voulais revenir un petit peu là-dessus. Bertrand abordait un point important. On a besoin de reconnaître que ce que nous faisons avec le WHOIS, avec le système de WHOIS, et nous sommes des gardiens publics des ressources qui est le DNS. Il y a beaucoup de ressources privées, comme par exemple Facebook, Google et autres, qui non seulement sont plus appropriées pour et plonger dans les données et distribuer ces données et offrir, par exemple, des permis de conduire sur Internet, etc., mais aussi qui sont gouvernés par un régime légal, un régime contractuel qui rend cet accès, ce niveau plus profond et plus approprié. Nous sommes les gardiens des ressources publiques ici. Ça devrait être la ressource qui demanderait le plus de protection pour les individus, protection et confidentialité, parce que les personnes, c'est de ça qu'il s'agit, que les personnes puissent accéder à, et utiliser ces ressources d'une façon qui permette, qui assure un partage de la meilleure façon possible pour avoir une communication. Mais il ne faut pas avoir le plus bas niveau, il faut que ce soit le plus haut niveau. Et par conséquent, je trouve toujours que c'est très ironique lorsqu'on nous dit que ces ressources doivent être et dépendre d'un régime le plus bas possible concernant la confidentialité et les droits des utilisateurs. Bien, donc on a ici plusieurs personnes, Peter, Jim, Carol, Peter Dengate Trash. Je parle en mon nom, je voulais répondre à ce qui a été dit quand on parlait par exemple de certaines licences. Et je voudrais qu'on regarde ces questions. Vous savez qu'il y a beaucoup de questions juridiques. Pour certaines juridictions, c'est une licence et pour d'autres, non. Et donc, ici, certaines personnes considèrent que c'est un droit humain fondamental. Et les structures légales que l'on peut utiliser ici, comme par exemple le trust ou la responsabilité, par exemple la confiance ou la responsabilité, il y a des personnes qui veulent, qui pensent qu'ils voyagent et qui, par exemple, se déplacent en chaise roulante et qui pensent qu'ils ont le droit d'accéder grâce à des rampes à différents bâtiments. Mais vous n'avez pas besoin d'être sur une chaise roulante pour utiliser ces rampes. Donc, quels sont les paramètres légaux? On peut se le demander, parce que si on part de la présomption qu'il y a une licence, à ce moment-là, on va imposer, on va créer une situation avec ces licences qui vont obliger ICANN de dicter une certaine conduite, et je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Donc, comment considérer cela? Merci, Jim Prendergast. J'avance peut-être. Il y a peut-être une autre diapo, je ne sais pas. Non, il n'y en a pas. Bien, alors, je sais qu'à l'origine, lorsque l'on a dit qu'il fallait et que ce travail serait remis au mois d'avril, au mois de mai, et est-ce que vous pensez que vous avez une estimation de la date à laquelle vous allez produire un document? Est-ce que donc ce document va être consensuel? Est-ce qu'il y aura des désaccords? Comment ce processus va fonctionner? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Jean-François, est-ce que vous voulez répondre à cette question? Oui. Je pense que c'est un peu difficile à estimer, mais c'est un... Parce que c'est un problème que l'on peut considérer de différents points de vue. Mais je pense que si l'on a la possibilité d'avoir un blueprint avant Durban, je pense que ce sera une bonne chose pour notre équipe, en tout cas. Et en général, il y a un consensus? Oui, absolument. Donc, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que ce sera dans moins de 10 ans. Carole, vous avez la parole. Participant à distance, je pense que ce serait logique, ce serait une question de confiance, et il faut savoir que l'on doit pouvoir contacter un bureau d'enregistrement et savoir qui il est. Steve, je voudrais dire que je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée qui a été proposée ici à ce propos. Le RUIS, ou en tout cas le données d'enregistrement des GTLD, sont des ressources publiques et c'est des ressources qui sont très importantes pour la transparence et la responsabilité sur Internet. ICANN doit être le gardien de ces ressources. Il l'a fait pendant ces 15 dernières années et à mon avis, ICANN n'a pas fait un très bon travail dans ce domaine. Dans ce domaine, il a dû affronter différents défis, mais les données sont moins accessibles, moins exactes aujourd'hui que ce qu'elles étaient auparavant. Donc je pense que ce que fait ce groupe est très important pour essayer d'améliorer la gestion dans ce domaine et la protection de ces ressources publiques très importantes. Vous avez décidé qu'il s'agissait d'une ressource publique. Pourquoi? Et si elle n'était pas là, est-ce qu'il faudrait les faire? Oui, je pense que si on n'avait pas quelque chose comme ça, on devrait l'inventer parce que les utilisateurs d'Internet ont besoin de trouver ces informations, de savoir où est-ce qu'elles sont. Bien. Wendy, Carole, la participation à distance, s'il vous plaît. Merci. Une question qui vient de Karen McCoy. Puisqu'on parle de prochaines générations de services, je pense que le groupe de travail devrait s'assurer que l'on travaille avec les compagnies de navigateurs comme Google, Microsoft et Mozilla, etc. Ils peuvent avoir de très bonnes idées à nous proposer. Merci. Oui, vous avez raison, Bertrand. Bertrand Lachapelle, en réalité, je ne suis pas tout à fait sûre qu'il s'agisse d'une ressource publique. Je qualifierais cela plutôt de service public. Il y a une équivalente au niveau des enregistrements en ce qui concerne les fonctions de RUIS et les services directs. C'est l'équivalence qu'on appelle en français le cadastre. Et cela correspond à la description générale des activités, des responsabilités fondamentales de l'ICANN. ICANN a une responsabilité fondamentale en termes de fonction de notaire. La racine, c'est une fonction de notaire. La supervision des services de répertoire, l'établissement de la racine, c'est une fonction de notaire aussi. Dans ce domaine, nous ne sommes pas les gardiens des ressources, nous sommes le gardien du processus qui gère ce service public. Le deuxième point est méthodologique. C'est une question méthodologique. Je suis très heureux de voir que le Conseil a pris la décision de lancer cet exercice et d'ouvrir le débat. En termes de procédure, je comprends que le rôle de ce groupe de travail soit d'encadrer les problèmes pour donner lieu à une discussion. Mais est-ce que vous pourriez expliquer un peu plus l'articulation entre ce que vous faites, où est-ce que vous arrêtez la prochaine étape? Oui. Mais d'abord, on va donner la parole à Wendy. Oui, merci beaucoup, Wendy Seltzer. Pour conclure, je voudrais offrir certaines visions différentes de ce que nous faisons. Et l'Internet est une plateforme immense qui donne la parole, qui permet de communiquer, de connecter les gens. Et nous devrions donc prendre beaucoup de précautions pour ne pas créer des règles qui peuvent restreindre cette occasion de communiquer. Attention donc. Parce que nous avons une tendance à penser en termes de commerce, en termes de contact obligatoire, de coordonnées obligatoires, mais il faut aussi réfléchir à l'expression, à la liberté d'expression et aux opportunités que cela amène pour permettre aux gens d'entrer en contact entre différentes juridictions, entre différents secteurs, domaines. Donc pensons et essayons de conserver cette liberté. La dernière diapo, s'il vous plaît. Bertrand, je reviendrai à vous dans une seconde. Et par conséquent, comme Jean-François l'a dit, nous avons une adresse d'email. Ici, vous l'avez sur l'écran pour envoyer votre contribution. Pour toutes les personnes qui veulent donc participer, nous envoyer votre opinion, faites-le. Vous pouvez suivre les progrès sur la page Wiki. Et comme cela a été dit, notre objectif est la réunion de Durban. Donc, je vais redonner la parole à Jean-François. Mais Bertrand a demandé à ce groupe de... Je vous redonnerai la parole, Bertrand, mais d'abord, je voudrais remercier tout le monde pour sa participation et je vais donner la parole à Jean-François de nouveau. Merci, merci beaucoup. Le matériel de cette session était très riche. Ce n'est pas aussi simple que ça de rassembler autant d'opinions de différents points de vue. Comme je l'ai dit, nous sommes venus ici de façon avec beaucoup d'humilité et je pense que vous avez très bien répondu et vous avez dépassé nos attentes en termes de contributions et valables dans les 6 secteurs que nous vous avons présentés dans les 6 domaines sur lesquels nous cherchions donc votre créativité et votre opinion. Donc vraiment, je dois le dire, nous remercions tout le monde, tous ceux qui sont ici dans la salle et qui ont participé à cette réunion. Comme je l'ai dit, nous avons donc une ligne qui vous est destinée pour que vous puissiez répondre. Donc vous avez ici les adresses e-mail. On va créer un processus pour qu'on puisse répondre de façon organisée à votre contribution. Donc notre voyage n'est pas terminé, c'est seulement le lancement. Et nous invitons la communauté à nous aider pour construire et tirer profit de cette opportunité que nous avons pour mettre en place cette nouvelle génération de services de répertoire des jeux GTLD et pour que les gens puissent mieux comprendre que ICANN fait les choses lentement et au niveau le plus bas pour que tout le monde puisse avoir l'occasion de prendre la parole. Merci et nous en sommes ici donc aujourd'hui. Merci, merci à vous tous d'avoir participé et d'avoir offert des opinions aussi intéressantes. Merci.